Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur Finaland et bienvenue sur ce podcast dans lequel nous allons parler de la série Bravely, un spin-off de la série Final Fantasy, inspiré très largement du jeu Final Fantasy The Four Heroes of Light. Et pour ce faire, j'ai invité deux personnes venant de la communauté de Bravely Oblige, j'ai nommé Asriel et Leaf. Donc je vais les laisser se présenter. Et donc, Asriel, donc, dis-nous, qu'est-ce qui t'a intéressé dans la série Bravely Default ?
Bonjour. Dans la série Bravely Default, je l'ai rencontré en fait dans un magasin de jeux vidéo où j'hésitais entre Xenoblade Chronicles et Bravely Default. La vendeuse m'a conseillé Bravely Default et c'est à partir de là que j'ai noué une grande relation d'affection avec les deux jeux sur lesquels j'ai joué plus de 250 heures sans connaître à l'origine la licence Final Fantasy. En fait.
Eh ben, très bien, donc bien de... Tu seras donc notre expert du lore des Bravely, vu que tu as une assez grande connaissance de cet univers. Et l'autre personne est donc Leaf, et bien je vais te laisser te présenter.
Alors bonjour, moi j'ai beaucoup joué sur les plateformes Nintendo, et le jeu Bravely Default m'a été conseillé à la base par des amis qui jouent beaucoup aussi sur Nintendo. Comme j'aime bien les RPG, j'ai essayé. La série m'a bien plu. Tout comme Asriel, j'ai pas joué à Final Fantasy au préalable. Donc comme quoi, voilà, la série Bravely, même si c'est un spin-off, peut se découvrir à part, on va dire. Et j'ai beaucoup joué à Bravely Default et Bravely Second sur les deux jeux. Voilà.
Très bien. Donc, eh bien, nous sommes réunis tous les trois pour parler de la série Bravely. Alors, j'ai oublié de me présenter, évidemment. Je suis Shrinig, vous m'avez peut-être déjà connu pour certains articles ou certains tests parfois un peu houleux, on va dire, notamment sur FF15 Les Empires. Bref, aujourd'hui nous ne sommes pas là pour ça, aujourd'hui nous sommes là pour parler de la série Bravely. Et on va partir du principe que ce podcast va spoiler, comme ça on est un peu plus libre de parler vraiment. Et quoi de mieux pour commencer la présentation que de commencer par les personnages qui sont mis en avant dans ces deux jeux. Alors, c'est mieux si vous avez une légère connaissance préalable de l'univers. Bon, légère, hein, pas non plus tous les détails. Et donc... Pour ce faire, je vais commencer par parler des personnages mis en avant dans la série Bravely. Donc, le premier personnage, c'est Tease, donc le personnage principal de Bravely Default, et probablement le personnage principal de Bravely Second, même si c'est un peu plus compliqué. Donc, Tease est un berger. Basiquement, il se retrouve embarqué dans les aventures suite à la destruction de son village, et il essaie de faire en sorte que le monde se fasse pas détruire comme son village a pu se faire détruire. Ce qui est intéressant de noter sur Tease, c'est que les jeux commencent et finissent avec Tease, et que c'est ce qui en fait un élément central des deux jeux. Donc le deuxième personnage à présenter est le personnage de Agnès. Donc Agnès est une vestale des cristaux. Donc basiquement c'est une prêtresse qui va voyager à travers le monde pour restaurer l'éclat des cristaux et restaurer l'équilibre des forces de la nature afin que le monde évite de mourir. Grosso modo. Dans le deuxième opus, Agnès est devenue la papesse de la religion centrée autour des cristaux, donc l'orthodoxie cristalline, et elle essaie de faire bouger la religion vers la paix. Le troisième personnage se nomme Idea. Donc Idea et la fille de l'antagoniste de Bravely Default. C'est un personnage au caractère assez trempé, au caractère assez bourrin, on va dire, hein. C'est le genre de personne à penser que le chemin le plus court, c'est la ligne droite, mais dans la colline. C'est un personnage qui sert avant tout à faire réagir et faire avancer les choses en faisant bouger les personnages, parce qu'elle va être très dynamique. Dans Bravely Second, elle est toujours là, elle est globalement toujours pareille, et elle est encore plus intéressante parce que c'est par elle que se font toutes les quêtes annexes. Et ce qui permet de développer énormément son personnage, ce qui est assez sympathique. Le quatrième personnage, il se nomme Ringabel. Alors, Ringabel, au début de Bravely Default, est amnésique. Puis, au fur et à mesure, il a un peu sa mémoire qui revient. Il a sur lui un grimoire, donc qui se nomme le grimoire de D, je crois, et son grimoire dans lequel se trouvent toutes les informations sur qu'est-ce qui va se passer, ce qui peut être assez étrange. Et je vous annonçais qu'on va spoiler. C'est le personnage qui permet de mettre en avant la mécanique qui vont toucher avec Bravely Default. C'est-à-dire que c'est un personnage qui vient d'un autre monde, en tout similaire à celui-là, et qu'à la base c'était un personnage du duché d'Eternia, qui était donc le chevalier noir, qui s'appelle Alternis Dean. Et donc c'est pour ça qu'il avait le journal de D, parce que c'était son journal. Et donc il avait auparavant déjà vécu toute l'histoire des quatre premiers chapitres. Et donc il essayait, quand il avait encore sa mémoire, de briser la chaîne qui se mettait. Ces quatre personnages sont accompagnés par une fée Eiri qui leur dit où aller. Donc, qui leur dit qu'il faut restaurer l'éclat des cristaux. Et ils ont un antagoniste qui se nomme Brave, le père d'Idea, donc de son nom de famille Lee. Donc, c'est Brave Lee. Cette personne cherche à les arrêter afin d'empêcher une catastrophe, mais on ne sait pas forcément. Au début, c'est un peu compliqué, on ne sait pas forcément pourquoi. Donc, avant de passer à la présentation de l'histoire des jeux, je vais vous présenter les personnages de Bravely Second, les personnages qui se rajoutent, puisque on retrouve Tease, on retrouve Idea dans l'équipe de personnages jouables. Agnès est présente, mais elle n'est pas un personnage jouable. Et Ringabel, oui, il est présent, plus ou moins. À ça se rajoute Yu Genealgia, le chef de la garde cristalline. Qui sont un ordre combattant au sein de l'orthodoxie cristalline, mais qui, comme tout ordre combattant, a son lot d'affaires de corruption et de beaucoup de choses qui vont avec. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas présent dans Bravely Default. C'est un peu un chevalier par défaut, vu que en fait c'est beaucoup plus un érudit qu'un chevalier, et beaucoup plus un foussard qu'un protecteur de la veuve et de l'orphelin. Même si il protège quand même la veuve et l'orphelin. C'est les événements de Bravely Second tournent un petit peu autour de lui. Vu que c'est finalement beaucoup plus le passé de Bravely Default et Bravely Second qui tourne autour de son personnage et de sa famille. Même si, bon, il a quand même un bon gros lien avec l'antagoniste. Le dernier personnage se nomme Magnolia. C'est une céleste, donc une humaine qui vit sur la Lune, et dont le but est d'empêcher des balles, donc des entités extraterrestres, plus ou moins. Donc le but, c'est de les empêcher d'attaquer la Terre et de tout ravager. Pour cela, elle a accès à des technologies assez évoluées, et donc son but dans la vie, c'est de casser du bal. Et pour finir, je vais vous présenter l'antagoniste de Bravely Second. Il se nomme Dennis. Il est à la tête de l'Empire de Glance, donc un empire qui a en fait qu'une seule base volante, une forteresse volante faite à partir d'un énorme cristal. J'avais dit qu'il avait un lien avec You, et là c'est tout simplement son grand frère. Donc les circonstances ont fait que Dennis voulait plus ou moins se venger de son père. Et la fée qui accompagne Dennis, donc Anne, en profite complètement pour le manipuler et faire en sorte qu'il fasse n'importe quoi. Mais ceci, nous en parlerons plus en détail quand nous évoquons le scénario de Bravely Second. Alors, en parlant de scénario, parlons donc du scénario de Bravely Default. Donc, ce jeu est découpé en 8 chapitres. Les 4 premiers chapitres ressemblent vraiment au scénario basique de Final Fantasy 1, c'est-à-dire une quête des cristaux où il faut aller rallumer les cristaux et donc pour ça il faut utiliser les pouvoirs d'Agnès pour rendre leur puissance aux cristaux et ramener l'équilibre dans les éléments. Alors, l'Empire, ça c'est dans notre jeu. Le duché d'Eternia essaie de nous en empêcher, on ne sait pas trop pourquoi à ce moment-là, et grosso modo, ça finit par l'apparition d'un pilier de lumière avec notre bateau volant qui se rend dans ce pilier de lumière, et ensuite apparaît un twist. Donc, dans les chapitres 5 à 8, ça ressemble énormément à l'histoire précédemment, c'est-à-dire que les quêtes annexes sont quasiment les mêmes, ce qui fait que ces chapitres 5 à 8 ressemblent vraiment à un jeu des 7 erreurs, puis en même temps, ils construisent le réel twist du jeu, donc par rapport au personnage de Eri qui n'est pas toute gentille et toute mignonne. Clairement pas toute mignonne d'ailleurs quand on voit sa vraie forme. Et donc le dernier chapitre permet donc de. C'est le twist. Eri manipulait tout le monde afin de relier les univers entre eux, afin que son maître Ouroboros puisse les manger. Et elle en avait mis ensemble beaucoup. Elle avait connecté beaucoup d'univers. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est tout à la fin. Un petit point de détail qui est sympa, c'est sur la dernière scène du jeu où le jeu fait directement parler le joueur. Vu que Tease était plus ou moins. Enfin, non, était vraiment. En fait, Tease est en fait mort, et c'est l'âme du joueur qui lui permettait de vivre. Et donc le jeu à la fin dit maintenant je vais rendre ce que j'ai emprunté. Et donc c'est l'âme du joueur qui quitte Tease. Donc. Ça met en avant beaucoup de choses intéressantes, mais nous en parlerons plus en détail dans la partie sur les théories. Et sur ce, je vais laisser Leaf parler du scénario de Bravely Second.
Alors, concernant Bravely Second, déjà, il faut savoir que lorsque l'histoire débute, on a une situation géopolitique beaucoup plus stable, c'est-à-dire que le duché d'Eternia et l'orthodoxie cristalline sont réunis. Ils s'apprêtent donc à signer un traité de paix, mais au moment où ils le signent, un certain Kaiser Oblivion, on ne sait pas encore qui c'est à ce moment-là, arrive accompagné d'une fée Anne et enlève Agnès au cours d'un combat qui est complètement perdu par l'alliance effectuée entre le duché et l'orthodoxie. Agnès est donc enlevée et Yu, qui est le chef de la garde cristalline, comme on l'a vu dans la présentation des personnages, va se lancer à la poursuite du Kaiser Oblivion pour la sauver. Donc, il y va accompagné des deux autres chevaliers de la garde cristalline, Jeanne et Nikolai, sauf que, manque de chance, il s'avère que Jeanne et Nikolai sont des traîtres qui ont en fait rejoint l'Empire. Entre-temps, Eyu se fait donc trahir et se retrouve seul. Heureusement, il croise la route d'Edea, donc l'une des héroïnes de Bravely Default, et va chez qui lui propose de sauver Agnès en sa compagnie. À deux, ils vont retrouver la trace de Tease pour le ranimer, étant donné que Tease est tombé inconscient à la fin de Bravely Default. En chemin, ils vont croiser également Magnolia, donc qui va se joindre au groupe, et qui vient de la Lune. Et à partir de là, la quête va se mettre en marche. Donc, tout le prologue va présenter les quatre personnages et va introduire l'histoire. Et ensuite, au même titre que Bravely Default, ils vont passer de continent en continent pour aller à la recherche d'Agnès. Le Kaiser Oblivion, on va vite l'apprendre, a enlevé Agnès dans le but de réveiller de nouveau les cristaux afin de faire apparaître le pilier céleste. L'avantage pour lui de réveiller le pilier céleste, c'est de pouvoir voyager dans le temps. On apprend ainsi qu'il va chercher à revenir dans le passé pour changer ce qui a été fait. À l'issue de quoi, les quatre héros de la lumière vont finir par le rattraper, mais ils arrivent malheureusement trop tard. Et on se rend compte à ce moment-là que Anne avait en fait manipulé le Kaiser pour parvenir à ses fins. L'objectif de Anne, en effet, était simplement, grâce au pilier céleste, de détruire la Lune. Et sans Lune, plus de temps, donc le temps s'arrête, et surtout, les balles qui sont normalement, dont l'accès à la Terre est normal, enfin, dont l'accès à Luxendark plutôt, est normalement bloqué par les habitants de la Lune, dont vient Magnolia, ne peuvent plus opérer forcément, vu que la Lune est détruite, ce qui fait que les balles peuvent se retrouver à volonté sur Luxendark, et c'est la catastrophe. Du coup, que font les héros? Yu se rend compte qu'à l'aide du sablier, il peut retourner dans le temps, et donc retourner au moment où le Kaiser a enlevé Agnès. C'est ce qu'il fait. Il revient à ce moment-là, et on peut changer complètement le cours du jeu en utilisant le coup Bravely Second, donc bien connu dans la série, pour bloquer le temps et effectuer d'autres actions. On peut ainsi empêcher le Kaiser d'enlever Agnès et changer complètement le cours de l'histoire. À ce moment-là, toute la suite du jeu va être en fait une sorte de remise en place de l'histoire, c'est-à-dire qu'on va avoir un rapprochement avec tous les antagonistes, c'est-à-dire que les antagonistes qu'on avait au préalable affrontés, on va se réconcilier avec eux, et Yu va en fait réparer toutes les erreurs qui ont été faites lors de sa première aventure, lors de la seconde, pour que ça se termine bien pour un maximum de personnes en fait. À l'issue de cette quête, il va donc se rendre compte que le Kaiser Oblivion est en fait Denis, frère. Et les deux frères vont se réconcilier, sauf que Anne va quand même chercher à réveiller les cristaux. Elle va pour ça utiliser l'aspirante vestale de Florem pour mener son plan à exécution. Sauf qu'avec l'aide de Denis, Anne ne pourra pas cette fois-ci détruire la Lune et ses plans vont être réduits à néant. Elle va invoquer le bal le plus puissant, c'est-à-dire Diamante, pour chercher à éliminer le groupe, mais Denis va se sacrifier pour emmener le bal dans le passé. Ce qui fait que les plans de Anne vont être contrecarrés. À l'issue de ça, pour une raison inexpliquée qu'on abordera dans les théories, le royaume de Kaldisla, qui était jusque-là inexistant dans l'histoire, va réapparaître. Et Anne va en profiter pour faire passer les balles via le gouffre céleste. Heureusement, le groupe des héros va s'en rendre compte et va triompher d'Anne pour ensuite emprunter le chemin du royaume céleste. pour aller affronter sa maîtresse, c'est-à-dire Providence.
Très bien. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si la construction du jeu n'est pas forcément très originale, elle est très bien exécutée. Et c'est vrai que chaque chapitre va correspondre à un continent, puis à un moment, il va y avoir un twist. C'est pareil dans Bravely Default, c'est pareil dans Bravely Second. Et ce qu'on peut voir, c'est que Bravely Default va toucher au principe de l'espace, et Bravely Second va toucher au principe du temps. Alors, maintenant va venir la partie sur les théories, sauf que pour cela, je vous propose de faire une pause, afin que ceux qui n'ont pas envie de se percer la tête avec toutes les théories foireuses puissent aller prendre un verre. Sinon, on vous retrouve dans pas longtemps.